Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu, aujourd'hui, Star Trek.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Star Trek. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler. Bill Shatner, Monsieur Spock, le vaisseau Enterprise, les oreilles pointues, les décors un peu fauchés et surtout, vous ne pouvez pas être passé à côté des 13 films de cinéma ou des 7 séries télé. Mais savez-vous comment est née cette increvable saga spatiale ? Space, the final frontier. Pour ce voyage à travers les frontières de l'infini, je vais vous proposer de voyager, non pas dans l'espace, parce que j'ai pas les moyens, pas riche, mais dans le temps. Et pour cela, j'ai pour vous une combinaison temporelle, composée d'un alliage de tritanium et alimentée par un cristal temporel. Elle a servi à une créature qui se fait appeler l'Ange Rouge. Vous pouvez la voir, c'est sur Netflix dans la saison 2 de Star Trek Discovery. Mais si vous souhaitez un peu plus d'infos, en fait c'est l'incubateur de dilithium qui déclenche une cascade d'énergie continue dans le cristal temporel. Et en le combinant avec de l'énergie noire, il reproduit la puissance d'une supernova. Donc, pas de soucis, vous pouvez être tranquille, ça va marcher, Allez, vous êtes prêts ? C'est bon, c'est parti. Nous sommes le 24 septembre 2017. Ouais, pour votre premier saut dans le temps, j'ai pas voulu aller trop loin quand même, parce que ça va vous désorganiser la tête, tout ça. Aujourd'hui, c'est le lancement de la série Star Trek Discovery, qui se déroule en 2256, 10 ans avant les aventures de Kirk, Spock et McCoy. Elle retrace, elle, les aventures de Michael Burnham à bord du vaisseau Shenzhou, puis du vaisseau Discovery. Extrêmement luxueuse, produite avec des moyens comparables à une série de prestige du genre Game of Thrones, la série est feuilletonnante. Elle retrace une longue histoire à chaque saison, segmentée en plein de petites trames indépendantes. Sonequa Martin-Green en est la vedette, aux côtés de Michelle Yeoh, de Doug Jones et des premiers personnages gays, ouvertement gays, dans une série Star Trek. La série sert à lancer d'ailleurs une nouvelle plateforme de streaming aux États-Unis, CBS All Access. Bon, c'est une plateforme qui existe déjà depuis 3 ans, mais qui booste considérablement son nombre d'abonnés avec cette création originale. En effet, elle est passée de 1 500 000 abonnés aux USA à 4 millions d'un coup grâce à Star Trek. Allez, là maintenant, c'est le passé. Nous sommes en mai 1994. C'est la diffusion de All Good Things, l'épisode final de la série Star Trek The Next Generation, la nouvelle génération. Cette nouvelle série avait été lancée en septembre 1987, 7 saisons plus tôt donc. Elle se déroule 100 ans après le Star Trek de Kirk et Spock. Les voyages de l'Enterprise et de son capitaine, Jean-Luc Picard, incarné par l'acteur shakespearien Patrick Stewart, étaient dirigés par le showrunner Rick Berman. Et ce soir, après 175 brillants épisodes, la série qui a marqué un nouveau départ pour l'univers Star Trek prend fin. Et cette série était une des toutes premières créations originales à être diffusée, ce qu'on appelle en syndication, à savoir sur les stations télé régionales aux États-Unis, dans tout le territoire américain, et pas sur un grand network. Bon, par la suite, il y a eu de très nombreuses autres séries qui se sont lancées dans ce créneau, de Vendredi Maudit à Xena la Guerrière. Ah, j'ai reconfiguré les intensificateurs de téléportation par le biais de la matière noire. Ça devrait fournir assez d'énergie pour vous téléporter de votre espace-temps vers le futur ce coup-ci, et non pas le passé. Mais nous aurons assez de puissance pour une tentative. En théorie, ça devrait marcher, quand même. L'interface de navigation de la combinaison temporelle permet de définir une destination dans le futur. Ah ben voilà, ça a marché. On est dans le futur. Mais alors, par contre, je peux pas exactement vous dire, 2019, peut-être 2020, c'est pas certain. Les fluctuations quantiques à l'intérieur du trou de ver que nous avons croisé tout à l'heure rendent difficile le suivi de la position de la combinaison avec les scruteurs standards. Une autre série vient tout juste d'être lancée, elle s'appelle Star Trek Picard, avec Patrick Stewart. Il reprend le rôle qu'il tenait dans la série The Next Generation. Jean-Luc Picard, dorénavant à la retraite, est démissionnaire de la Starfleet. Allez, on est reparti. On est maintenant en septembre 2001 avec la série Enterprise qui est lancée. Elle se déroule en 2151, 100 ans avant les aventures de l'équipage traditionnel. Et le vaisseau Enterprise est à ce moment-là commandé par Jonathan Archer, incarné par Scott Bakula, l'acteur de Code Quantum et actuellement l'acteur de NCIS Nouvelle-Orléans. Donc, 100 ans après pour La Nouvelle Génération et 100 ans avant pour Star Trek Enterprise. Allez, encore dans le passé, en 1973, Star Trek est devenu une série animée, avec Kirk, Spock et les voix de William Shatner, Leonard Nimoy et tous les autres, avec quelques histoires écrites par les scénaristes de la série d'origine. Allez, hey, pas de temps à perdre, hein. Nous sommes 20 ans plus tard, en janvier 1993. C'est le début de Star Trek Deep Space Nine. Les producteurs ont pris le pari un peu fou de lancer une deuxième série, alors que La Nouvelle Génération est toujours en production. Et pour se différencier, celle-ci se déroulera non pas dans un vaisseau d'exploration intergalactique, mais sur une station spatiale en orbite, juste à côté d'un trou de ver, un pont avec d'autres univers. La station en question a pour nom Deep Space Nine. Elle est commandée par Benjamin Sisko, incarné par un acteur noir, Avery Brooks. Voilà, nous sommes maintenant en novembre 1996. C'est l'avant-première du film First Contact avec l'équipage de La Nouvelle Génération. Picard et les autres sont confrontés au Borg dans une production mise en scène par Jonathan Frakes, celui qui était auparavant de l'autre côté de la caméra dans le rôle du commandant Riker. Et c'est un film, un vrai blockbuster, qui a un immense succès largement mérité. Allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On est en janvier 1995. Il y a une nouvelle série Star Trek qui vient d'être lancée. Elle s'appelle Voyager, avec la capitaine Janeway. Et son équipage est garé dans un secteur inexploré du cosmos. Cette fois-ci, la série Star Trek va servir pour lancer une chaîne tout entière. UPN, United Paramount Network. Une nouvelle venue sur le paysage audiovisuel américain. UPN's new season is coming this fall. Vous avez d'ailleurs noté depuis le début, hein, il semble que Star Trek serve toujours à lancer des nouveaux médias, de nouvelles chaînes ou de nouveaux modèles de diffusion. C'est dingue, hein ? Nous sommes en mai 2009. Un nouveau film Star Trek va voir le jour, mettant en scène d'autres incarnations des personnages de Kirk, Spock, McCoy et de tous les autres. Il se déroule dans une autre ligne temporelle. Il met en scène Chris Pine, Zachary Quinto et brillamment mis en scène par J.J. Abrams. Et à la surprise de tous, ce blockbuster redonne vie à Star Trek et lui donne d'ailleurs un sérieux coup de neuf auprès d'un public qui ne s'était jamais attardé sur la saga auparavant. Il y aura deux autres films, dont Into Darkness avec Benedict Cumberbatch et Star Trek Beyond avec Idris Elba. Ah, voilà, j'ai réglé la signature quantique sur l'homme qui a été à l'origine de tout cet univers, toutes les séries dont je viens de vous parler, tous ces films. En fait, c'est un homme, un seul. Enfin, pas tout à fait.
Star Trek. How did it happen? When did it start? This is Gene Roddenberry.
L'homme que vous allez suivre maintenant a pour nom Gene Roddenberry. Il a été pilote d'avion, de ligne, puis policier. Mais il est devenu scénariste. Il a écrit pour quelques séries télé et en 63, il est même parvenu à lancer sa propre série, The Lieutenant, avec Gary Lockwood et Robert Vaughn. C'était sur la vie de militaire en temps de paix. Ce nouveau projet de série qu'il propose le 11 mars 1964 dans un dossier de présentation de 16 pages, soyons précis, est basé sur des éléments du fameux film Planète Interdite, un film de 1959. Mais là, le vaisseau USS Yorktown est commandé par le capitaine Robert T. April. Il amène son projet à la société de production Desilu, qui dans ses studios avait précédemment produit et tourné des séries comme Les Incorruptibles et la sitcom I Love Lucy de Lucille Ball. Ben, Lucille Ball, justement, c'est la présidente des studios, le Lu de Desilu. Quand on lui a parlé d'ailleurs pour la première fois que son studio développait dorénavant une idée de série dénommée Star Trek, elle a cru qu'il s'agissait de vedettes de cinéma, de stars, dans un voyage, un trek, dans les îles des mers du Sud pour soutenir un militaire en poste. Il faut démontrer que cette série pourrait être une grande série d'action et d'aventure. Roddenberry promet que sa série serait la grande caravane dans l'espace. Il fait allusion à une des très nombreuses séries télé western qui était extrêmement populaire à l'époque. Le projet de série est développé et à un moment, il va même brièvement changer de nom. Il va devenir Les Voyages de Gulliver, avec aux commandes de l'Enterprise le capitaine Gulliver. Bon, mais on revient quand même à Star Trek, hein. Roddenberry va pitcher en détail son projet à la chaîne CBS. Elle prend beaucoup de notes, les responsables lui disent à la fin du rendez-vous que tout ça était très intéressant, mais qu'ils ont déjà donné leur feu vert à une autre série de science-fiction par le fameux producteur Irwin Allen et qu'ils préfèrent cette série-là à la sienne. L'autre chaîne NBC, par contre, confirme que ça les intéresse. Et ils mettent sur la table $630 000 pour un pilote. Le pilote de Star Trek est écrit puis tourné du 27 novembre au 11 décembre 1964. 16 jours donc. Il a pour titre The Cage. Et c'est Jeffrey Hunter, l'acteur vu dans Le Roi des Rois, où il tenait d'ailleurs le rôle de Jésus-Christ, qui tient ici le rôle de Christopher Pike. Et Majel Barrett, qui incarne la première officier number one. Derrière la caméra, c'est un réalisateur expérimenté, Bob Butler, qui est aux commandes. Butler, c'est une vraie légende à Hollywood. Il a tourné les pilotes de nombreuses séries, de Batman à History Blues, en passant par Clair de Lune. Il a créé tout le style visuel de toutes ces séries. Et puis NBC va refuser le pilote. Parce que le pilote est jugé pas assez attrayant, un peu trop psychologique. Ça, c'est ce que Roddenberry raconte. En réalité, mais ça vous le savez puisque vous êtes observateur, Mort Werner, le responsable des programmes de la NBC, a été stupéfait par l'envergure visuelle du pilote. Le trouve absolument formidable, mais l'érotisme de l'épisode est quand même un peu gênant. C'est bizarre quand même, hein. Il parle de mini-jupe, sans doute, ou de l'extraterrestre verte qui effectue une danse lascive, ou alors ça cache peut-être autre chose. Mais enfin bon. Mort reconnaît que le choix de The Cage comme pilote n'était sans doute pas le bon, et il reconnaît un peu son erreur. NBC demande, et ça c'est du jamais vu, un deuxième pilote pour donner une deuxième chance à cette série hors du commun. Mais avec ça, il y a quand même des demandes, parce que c'est à ça que servent les pilotes. Ben, se débarrasser de la number one, et se débarrasser du mec là, l'extraterrestre au look satanique avec les oreilles pointues et les sourcils remontés. Et vous voyez que Roddenberry accepte la première demande, mais refuse obstinément la seconde pour conserver le personnage de Spock. Poussé par sa femme, Jeffrey Hunter décide de ne pas continuer plus avant, confiant dans la grande carrière cinématographique qui l'attend. Et pour le remplacer en capitaine de l'Enterprise, on envisage de demander à James Coburn, à Jack Lord, c'est le Jack Lord de Hawaii Police d'État, à Lloyd Bridges et même à Roy Thinnes, le David Vincent des Envahisseurs. Bref, on cherche un nouveau capitaine. Le deuxième pilote de la série est tourné à partir de mi-juillet 1965, en 8 jours. Le réalisateur en est James Goldstone. Il insiste pour que Roddenberry et son équipe engagent un vieux directeur de la photo, à la retraite depuis longtemps. Alors, vous le voyez arriver dans le bureau de Roddenberry, hein, et des autres producteurs. Le mec s'appelle Ernest Haller. Bon, il leur dit qu'il avait tourné par le passé un petit film, il y a 26 ans. 26 ans ! Bon, un film dont il pourrait avoir entendu parler, hein. Autant n'importe le vent. Bon, on engage sur le champ le directeur photo d'un des plus grands films au monde et qui va travailler sur le nouveau pilote de Star Trek. En février 1966, la chaîne NBC confirme qu'elle donne le feu vert à une série. Et cette série sera proposée dès la rentrée 1966. Mais comme le diffuseur craignait toujours des réactions d'un public conservateur et chrétien sur le look satanique de Spock, il fait effacer les oreilles pointues et les sourcils relevés de toutes les photos sur la plaquette promotionnelle de la série. Ah oui, ça y est, bah, un nouveau saut dans le temps, hein. Nous voilà maintenant en plein milieu de la diffusion de Star Trek sur NBC. Bah oui, j'accélère un peu, sinon on en a pour la nuit. Le capitaine James T. Kirk est finalement interprété par William Shatner, un acteur canadien que Roddenberry a découvert dans un épisode de Twilight Zone et dans un film de Roger Corman, The Intruder. Quant au nom du capitaine, il a été choisi parmi 16 autres. Il y avait Hamilton, North, Boone, Drake, Thorpe, Richard. Finalement, on a opté pour James T. Kirk. Shatner, lui, étant dégarni, il portera systématiquement une perruque faite sur mesure et qui coûtera $200 à la production. L'acteur DeForest Kelley, que Roddenberry avait vu dans Règlement de compte à Hockey Coral, n'était pas disponible pour les deux pilotes, et pour cause, il était en train d'en tourner un, lui, de son côté, un pilote qui s'appelait Polystory, qui n'a pas été pris d'ailleurs, mais qui a été lui aussi créé par Gene Roddenberry en personne. Comme quoi, le monde est tout petit. Et puis, puisque le pilote n'a pas été retenu, devant sa performance, il a été immédiatement pris dans Star Trek, il tient le rôle du docteur McCoy. Et Leonard Nimoy, quant à lui, était toujours de l'aventure, depuis le début. Et il causait bien des soucis aux différents laboratoires de développement qui s'acharnaient à corriger la couleur de sa peau. Mais non, messieurs, Spock, il est mi-humain, mi-vulcain. Il est bel et bien censé avoir un teint jaune. L'Écossais Montgomery Scott est incarné par James Doohan, que Roddenberry a voulu virer d'ailleurs, avant le lancement de la production. Et le Japonais, Mr. Sulu, interprété par George Takei. Lui, comme acteur, il avait un contrat où il n'apparaissait que dans seulement 7 épisodes sur 13. Ça permettait de faire des économies. Et maintenant, il y a même un Russe, Pavel Tchekov, interprété par Walter Koenig, qui est inclus suite à un article de la Pravda. Un article qui déplorait que cet équipage multiethnique et multiculturel dans l'Enterprise ne comprenne pas de Russe. Il faut aussi noter que le fait d'avoir justement un équipage multiethnique était aussi une demande très claire de la part de la chaîne NBC, le diffuseur, et de son président, Mort Werner. Pour toucher un public jeune, Walter Koenig dut d'ailleurs se faire une coupe de cheveux semblable à celle des Monkees. C'était un groupe pop semblable aux Beatles, qui était héros d'une série à succès. Pour aller encore plus avant, on a inclus à l'équipage l'afro-américaine Lieutenant Uhura, à savoir l'actrice Nichelle Nichols. Pour la convaincre, Danbury promet à son agent un salaire de $1,000 par semaine et un minimum de 10 épisodes sur les 13 premiers, donc bien plus que les autres. Mais par derrière, il précisait au département comptable de refuser un tel accord et de revenir au prix habituel qui était pratiqué. Étrangement d'ailleurs, Nichelle Nichols remplace Lloyd Haynes, qui tenait exactement le même rôle de responsable de la communication dans le deuxième pilote, et lui aussi était afro-américain, et pas particulièrement mauvais. Alors, pourquoi diable l'a-t-on remplacé par Nichelle Nichols ? Ah, ben voilà, là, en bon observateur spatio-temporel, vous avez la réponse sous vos yeux. Ben, ce que vous voyez, c'est Nichelle Nichols, nue, dans le bureau de Gene Roddenberry. Alors, bon, là, c'est très clair. L'infirmière Chapel est interprétée par Majel Barrett. Oui, celle qui était le number one dans le tout premier pilote, mais dont le diffuseur ne voulait pas. Donc, elle sort par la porte, mais elle revient par la fenêtre, dans un rôle un peu moins important. On va dire que Gene Roddenberry est fidèle à cet acteur, à moins que Majel Barrett, bah en fait, vous constatez qu'elle a maintenant un appartement juste à côté des studios des Illus. Bah, tout simplement parce qu'elle est en relation avec Gene Roddenberry. Lui est marié avec Ellen Roddenberry, il mène donc une double vie, tout en ayant des relations aussi avec des actrices comme Nichelle Nichols. De plus, Gene Roddenberry a l'habitude de superviser en personne les tenues portées par toutes les vedettes invitées de la série. Il incite souvent pour que leurs jupes soient encore plus courtes et montre un peu plus de la plastique des comédiennes. En même temps, une actrice que Roddenberry avait propulsée au rang de personnage régulier de la série connaît sa descente aux enfers. Grace Lee Whitney tenait initialement le rôle de la yeoman Janice Rand, follement amoureuse de Kirk, et elle disparaît en fait au bout de 7 épisodes. Mais vous qui venez du futur, enfin de notre époque, vous savez que c'est à la fois une addiction, son alcoolisme, la relation sexuelle en état d'ébriété qu'elle a dû subir de la part d'un responsable de la série qu'elle n'a jamais voulu nommer, c'est tout ça qui lui ont fait perdre le rôle. De plus, pour les scénaristes, le lien entre Janice Rand et le capitaine de l'Enterprise empêchait le personnage de Kirk de lutiner d'autres beautés galactiques. L'éviction l'a conduite sur le chemin du suicide, mais par bonheur, elle surmontera ses drames et vous vous souviendrez d'elle dans des films qu'elle tourna par la suite. Le budget de la série est de $200,000 par épisode. NBC en apporte 160 000. C'est le studio des Illus qui couvre le reste, et aussi les éventuels dépassements de budget. Mais c'est le studio qui ensuite garde les droits de la série pour la revendre en rediffusion aux chaînes étrangères, ad vitam aeternam. Comme vous, vous venez du futur, vous savez qu'ils sont assis sur une véritable mine d'or. Ben ouais, toutes les autres séries dont je vous ai parlé, les séries, les films, etc. Mais eux, ils ne le savent pas. Il leur faut faire le plus d'économies possible pour rentrer dans leurs frais. Très prosaïquement, il était hors de question pour la série d'avoir le genre d'effets spéciaux que l'on pouvait admirer dans des longs métrages comme Planète Interdite. Le vaisseau Enterprise ne pouvait donc pas se poser sur de nouvelles planètes à chaque épisode. Donc on inventa le télétransporteur. Ben c'est bien commode, hein. Pour envoyer les membres de l'équipage sur une planète ou sur un autre vaisseau, il suffit d'un fondu enchaîné, d'une surimpression avec des particules d'aluminium filmées au ralenti à l'envers, et hop, ça y est, un peu comme dans Ma sorcière bien-aimée, ils disparaissent, ils réapparaissent. Ah, là vous entendez le téléphone qui sonne dans le bureau de Gene Roddenberry. C'est Sandy Coolidge, Alexander Coolidge, le compositeur de la musique de la série dès le tout premier pilote. Il y a Roddenberry qui le félicite à nouveau pour son thème musical. C'est vrai qu'il est quand même assez extraordinaire. Et puis pour le choix de la soprano Lully Jean Norman pour faire la voix dans le générique. Et c'est lui aussi, le compositeur Alexander Coolidge, qui fait le whoosh, le son du vaisseau qui passe dans le générique. Même si en fait, dans l'espace, il n'y a pas de son. C'est sa propre voix, bidouillée au mixage. Mais Sandy semble plutôt mécontent. Non, pas parce qu'on a supprimé la voix de Lully Jean Norman dans le générique de la saison 2 pour faire des économies sur les droits qu'on lui paye à chaque épisode, non. Parce que ça, il l'ignore encore. Non, on vient de lui annoncer qu'il ne touchera que la moitié de ses royalties pour le fameux générique. Ce générique, il a écrit. Et les foudrages. Bah, il y a de quoi. En effet, Gene Roddenberry a fait jouer une clause de son contrat et s'est enregistré en tant que compositeur du générique comme auteur des paroles. Parolier. À ce titre, il a donc droit à la moitié des royalties qui, ben, auraient dû revenir quand même au compositeur. Des paroles ? Quelles paroles ? Celles-là ? Space, the final frontier. Ah non, 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 pas du tout, du tout, pas celle-là. Celle-là. Bon, je vous rassure, vous n'êtes pas fous. passé ou présent, vous n'avez jamais entendu ces paroles. Et pour cause, ça ne fonctionne pas du tout, ça n'a aucun sens. Love, strange love, star woman, teaches the Star Trek, will gone forever, enfin, c'est ridicule. Roddenberry les a écrites et déclarées uniquement dans le but de toucher 50% des droits qui auraient dû revenir à Sandy Courage. Découvrant l'arnaque, Alexander Courage, donc, il passe donc un méchant coup de fil. Et vous entendez Roddenberry lui dire « Oh ben, il faut bien que je me fasse de l'argent quelque part, hein. C'est pas avec les profits de la série que je vais me faire des sous. » Donc, depuis cette date, à chaque fois que le thème de Star Trek est diffusé quelque part, la moitié des royalties partent directement chez les héritiers Roddenberry, pour des paroles qui n'ont jamais été chantées. Et vous, entendant cela dans votre exosquelette, vous comprenez pourquoi Alexander Courage n'a écrit aucune autre musique pour Star Trek. Et puis, puisqu'on parle justement de musique, là, vous regardez un peu un mémo sur le bureau de Roddenberry. Vous découvrez aussi que Roddenberry demande des royalties sur l'album que sa vedette, Leonard Nimoy, va sortir. Soudain, la porte du bureau de Roddenberry s'ouvre. C'est Bob Justman, le producteur en charge de la série. Il entre sans frapper. « Gene, on ne peut plus attendre. J'ai besoin de ta dernière version du script du prochain épisode. J'en ai besoin tout de suite. » Et en disant ça, il saute sur le bureau de Roddenberry et il attend. Roddenberry ne lève même pas les yeux, il continue de frapper frénétiquement à la machine à écrire. Il va tendre d'une main les 5 feuilles attachées ensemble à Justman, toujours sans lever les yeux. Justman descend du bureau de Roddenberry et s'en va. Bon, en fait c'est un petit cirque qui est totalement amical et qui dure depuis des mois et des mois, dès que Roddenberry est un peu en retard. L'auteur Isaac Asimov s'enthousiasme pour la série qu'il considère comme étant la première vraie bonne série télé de science-fiction. Il n'a pas tort. De nombreux gadgets de la série deviendront une réalité par la suite. Le tricodeur, qui est en fait un scanner médical portable. Le communicator et son équivalent, quelques décennies plus tard, le téléphone portable. Le badge, qui sert de communicateur et qui préfigure les oreillettes Bluetooth. Par contre, le warp drive, la distorsion ou propulsion exponentielle qui permet au vaisseau de se propulser à une vitesse supraluminique, donc d'atteindre rapidement d'autres planètes de la galaxie, ça c'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais ça s'avère bien pratique pour la série. Plus prosaïquement, ces gadgets ont tous été créés par Matt Jeffries, le décorateur qui avait déjà travaillé sur différents lieux, couloirs de l'Enterprise, comme la salle des machines, les tubes qui portent son nom, et sur le style de planète explorée. C'est une société spécialisée dans les accessoires de science-fiction qui travaille déjà pour au-delà du réel, qui sera chargée de les confectionner. Par exemple, chaque exemplaire du tricodeur coûte 275 $. Monsieur Spock, quant à lui, est un vulcain. En réalité, il est mi-humain, mi-vulcain. Il aspire à la parfaite logique et à l'absence totale d'émotion. Mais l'univers de Star Trek est aussi peuplé de Romuliens et surtout de Klingons. Ils sont inventés dans l'épisode « Errand of Mercy ». Ils ressemblent un peu à des Mongols. Et d'ailleurs, l'acteur John Colicos, qui tient le rôle de Kor, s'inspire de Genghis Khan. D'ailleurs, cela est la création d'une autre personne, et pas de Gene Roddenberry. C'est le producteur Gene Kuhn, un scénariste émérite, qui a travaillé aussi sur les mystères de l'Ouest, qui a créé les Klingons à travers cet épisode. Il a aussi créé la Prime Directive. Vous savez, c'est la directive qui demande à ce que l'équipage n'ait pas d'interférence avec le développement des civilisations qu'ils sont amenés à rencontrer dans leur voyage. C'est d'ailleurs inspiré d'une loi qu'un premier ministre canadien a fait passer aux Nations Unies en 1956. Il supervise et affine aussi tous les scénarios de chaque saison. Il crée les antagonismes d'ailleurs entre le trio Kirk, Spock et McCoy. Et c'est étrange, mais Gene Roddenberry ne parle quasiment jamais de lui en public, à part une fois un journaliste. Quand on lui parle de tout ça, des Klingons, de tout le reste, il répond que oui, c'est bien lui, oui. Il ne détrompe pas ses interlocuteurs. En l'observant maintenant avec attention, vous vous rendez compte que Roddenberry a la fâcheuse tendance de s'approprier un peu les bonnes idées des autres. Par exemple, en avril 1966, le producteur de la série Bob Justman, justement, lui fait passer une idée d'épisode à venir, où l'Enterprise retourne sur Terre, mais arrive dans le passé, et donc il est pris pour un ovni. Pour Bob Justman, c'est un épisode qui pourrait s'appeler quelque chose comme Tomorrow is Yesterday, par exemple. Et bien en fait, Justman n'a jamais été crédité pour cet épisode qui existe bel et bien. Et c'est aussi le responsable de la production, Herb Solo, qui a eu l'idée de retracer chaque histoire via la voix off du capitaine, qui enregistre son journal de bord. L'histoire devient à partir de là un flashback. Et bien ça, c'est devenu l'idée de Roddenberry. Roddenberry avait aussi l'habitude de réécrire les scénarios qu'on lui donnait, mais sans avoir la politesse d'en discuter ou de le faire suivre à l'auteur. C'est ainsi que John D.F. Black, qui était le directeur de collection de la série, fut terriblement vexé de constater que son tout premier scénario à lui, The Naked Time, avait été revu, réécrit, mis en production, sans même que Roddenberry, qui était pourtant un bureau plus loin que lui, ne lui dise. À la fin de son contrat, qui le liait à Star Trek, John quittera son bureau et avec sa femme, il ouvre une bouteille de champagne pour célébrer le fait qu'il ne travaillerait désormais plus avec celui que les fans surnomment le grand oiseau de la galaxie. Et ce que l'on découvrira un peu plus tard, mais vous, puisque vous venez du futur, vous le savez, c'est que Gene Roddenberry ne se gênait pas pour facturer toutes ses réécritures d'épisodes, toutes les réécritures qu'il était censé faire, en plus de toucher son salaire de producteur-créateur, donc il touchait jusqu'à 3 000 $ par épisode, plus que le scénariste original. Bien plus qu'un simple space opéra pour la télévision, la série reflète des sujets et interrogations de l'époque. Elle évoque souvent les droits civiques, les préjudices raciaux, les conflits, et nous montre une société utopique où les guerres, la faim et la pauvreté ont disparu et où les différentes races sont unies au sein d'une fédération. Dans un monde où l'homme s'apprête à poser le pied sur la Lune, la vision utopiste de Gene Roddenberry est en parfaite résonance avec l'époque, les turbulentes années 60s, et est quasiment la parfaite représentante de la contre-culture. Et assez vite, un phénomène curieux s'est produit. Le personnage de Monsieur Spock fascine, il intrigue. Parce qu'il est complexe, il représente la contradiction et l'opposition entre la logique et l'humanité. Leonard Nimoy peaufine son personnage, invente même le Vulcan Nerve Pinch, une pression dans le cou en fait, sur les trapèzes qui est censée faire immédiatement s'évanouir la victime. Il va aussi inventer, dans l'épisode Amok Time, le salut Vulcain. Il reprend ça d'un geste qu'il a vu alors qu'il était tout jeune enfant dans une synagogue où ses parents l'avaient emmené. Nimoy reçoit près de 10 000 lettres de fans par semaine, alors que c'est Bill Shatner qui est censé être la vedette de la série et qui a un salaire en fonction de 5 000 $ par épisode. Plus, et ça de manière complètement confidentielle, 5% sur les profits de la série. Dès lors, Shatner va quand même s'évertuer à bien rappeler aux scénaristes et aux producteurs que c'est lui la vedette de la série et pas Nimoy, et que les meilleures lignes de dialogue doivent lui revenir à lui, quitte à repousser dans l'ombre tous les autres membres de la distribution. À l'époque, Nimoy, lui, ne touchait que 1 250 $ par épisode. Il n'avait aucun intéressement au profit de la série. Il recevait pourtant des sacs entiers de lettres de fans. Et en plus, Roddenberry n'avait aucunement l'intention d'étoffer son rôle et de refléter cette popularité dans les épisodes à venir. Ah, maintenant, vous voyez Roddenberry qui est vivement pas content. Il va trouver l'acteur Lawrence Montaigne et vous l'entendez hurler « Si vous n'acceptez pas le rôle de Vulcan Stone dans cet épisode, je vous jure, vous ne travaillerez plus jamais à Hollywood. » Voyons, Montaigne était sérieusement pressenti pour que son personnage de Vulcain, Stone, qui apparaît dans un épisode, devienne d'ailleurs le remplaçant de Monsieur Spock. Et donc, obtienne un rôle plus permanent si Leonard Nimoy ne revenait pas pour la saison 2. Quelques jours plus tard d'ailleurs, en plein tournage, parce que finalement il a accepté, vous suivez Roddenberry, qui frappe à nouveau à la porte de l'acteur Lawrence Montaigne. « C'est quoi cette merde ?» hurle-t-il. « Vous bloquez tout le tournage !» Et l'acteur lui expliquait qu'on ne lui avait absolument pas dit qu'il devait jouer torse nu et qu'il devait donc se raser le torse. Et il n'est pas d'accord. Ça se finit en pugilat, l'agent du pauvre comédien a dû venir d'urgence sur le plateau pour régler l'affaire. Bon, au final, Leonard Nimoy et son agent trouvent un accord. Nimoy, pour la deuxième saison, touchera dorénavant 2 500 $ par épisode. C'est aussi à ce moment-là qu'on propose à Nimoy, pour lui éviter de longues heures de maquillage chaque matin, de lui payer, en début de saison, une opération de chirurgie esthétique qui lui taillerait les oreilles en pointe pour toute la durée de la saison. Nimoy a mis quelques minutes avant de comprendre qu'on lui faisait une gigantesque blague. En fait, à la fin de la première saison, l'audience de Star Trek n'était pas très brillante. La série termine 52e dans le classement des séries, juste derrière Mission Impossible, et derrière la série western Le Cheval de Fer. C'est un peu la honte. Vous continuez d'observer Gene Roddenberry. Il a maintenant des rendez-vous avec des jeunes étudiants, issus de plusieurs universités technologiques. Mais qu'est-ce qui manigance ? À la fin de la saison 2, des milliers de fans écrivent pour tenter de convaincre la chaîne NBC que leur série Star Trek a un public fidèle. Ah ben voilà ce qu'il manigançait. Une campagne organisée par lui en sous-marin. Il avait déjà fait d'ailleurs exactement la même chose à la fin de la saison 1, en faisant du lobbying auprès d'une société d'auteurs de science-fiction pour qu'ils incitent tous les fans à écrire massivement. Là, il a carrément pris un bureau et il paye une fan pour coordonner tout ça de façon complètement secrète, évidemment, parce qu'il faut que ça ait l'air spontané. En fait, bon, il fera même une facture de 977 $, soyons précis, à Désilu pour les dépenses de cette campagne. Les 12 000 lettres que NBC reçoit et la manifestation de fans devant les locaux de la chaîne sont donc une opération financée par la production de la série. Roddenberry va même jusqu'à observer la manifestation incognito depuis une grosse moto. Mieux encore, il fera fuiter la ligne privée du patron de la NBC qui recevra dès lors une avalanche d'appels de fans outragés. Au fil de ces saisons, des épisodes particulièrement brillants vont marquer les spectateurs. The Trouble with Tribbles, avec l'invasion du vaisseau par des créatures qui ont l'apparence de boules de fouille ronronnantes, mais qui se reproduisent à vitesse grand V. City on the Edge of Forever, écrit par le grand auteur Harlan Ellison, et qui joue avec les paradoxes temporels en renvoyant Kirk et Spock dans le passé de la Terre, aux côtés d'une jeune femme dont le destin est lié à l'avenir de la planète. une femme d'ailleurs qui est incarnée par la toute jeune Joan Collins. Et lors d'un autre épisode, Plateau Stepchildren, mû par une force extraterrestre, Kirk et Uhura sont forcés de s'embrasser. Presque involontairement, cela devient le premier baiser interracial de toute l'histoire de la télévision américaine. Et dans un autre épisode, Let Me Be Your Last Battlefield, deux races se font la guerre parce que leur peau, mi-blanche, mi-noire, est inversée les uns les autres. Oui, j'accélère un peu, hein, on est en 68. Vous comprenez pas trop, là. Il y a bien une saison 3 de Star Trek en ce moment, mais Gene Roddenberry n'a pas trop l'air de s'en occuper aussi activement. En fait, il a abandonné la série en cours. Il est persuadé que cette saison sera la dernière. Et malgré ses promesses faites à la chaîne et à toute l'équipe, il se concentre maintenant sur de futurs projets. Il a donc laissé tomber tout le monde, et un nouveau producteur, Fred Freiberger, a été appelé à la rescousse pour superviser les scénarios. Gene Cohn, quant à lui, il a fait un burn-out. Il a quitté la série en septembre 67, complètement épuisé par son travail. Roddenberry, lui, fume autre chose que des cigarettes, on va être franc. Il passe son temps à tenter de tirer profit de la série et de l'engouement qu'elle suscite auprès d'un groupe de spectateurs très bien ciblé. Il est devenu, aux yeux de l'équipe, un businessman et plus grand-chose d'autre. Il fonde une société, Lincoln Enterprise. Il vend aux fans des scripts originaux de la série qu'il récupère parce qu'il en fait tirer plus d'exemplaires que nécessaire, aux frais de la maison de production, bien sûr. Il a aussi récupéré toutes les chutes et scènes coupées de tous les épisodes passés pour découper directement dans la pellicule et faire des diapositives qu'il vend aux fans. Ah ben voilà, vous comprenez pourquoi il n'existe plus aucune scène coupée de la série sur les Blu-ray. Roddenberry les a toutes subtilisées. Il demande aussi 50% des droits d'auteur sur un livre making-of de la série, qu'il n'a pas écrit, hein, mais il ne prendra même pas le temps de le relire avant impression. Et il va récupérer une broche et il va demander à Leonard Nimoy de la porter dans la série pour ensuite pouvoir la vendre aux fans. Leonard Nimoy va refuser. De toute façon, Roddenberry et Leonard Nimoy ne se parlent plus. Leur relation s'est détériorée au-delà de toute réconciliation. À la fin de la saison 1969, Star Trek est définitivement arrêté. Mort Werner, le directeur des programmes de la NBC, envisage à un moment de continuer la série avec un téléfilm de 90 minutes. Mais devant le désintérêt de Roddenberry, cela ne se fera finalement pas. Nous sommes en 1978. Star Trek a finalement été relancé. Les rediffusions lui ont donné une nouvelle popularité qu'il n'avait même pas durant sa diffusion originale. Et comme la Paramount travaille à lancer sa propre chaîne de télé, la série Star Trek Phase 2 en sera le point d'orgue. Ben, je vous avais dit qu'à chaque fois qu'il y a une série Star Trek, ça sert à lancer un nouveau média. La distribution des origines est réunie, un premier épisode est écrit, et puis Star Wars sort en salle et fait un malheur absolu au box-office. Le projet de chaîne est stoppé, la série est immédiatement abandonnée au profit d'un film, un film réalisé par Robert Wise et qui sort en décembre 1979, avec le scénario initialement destiné à être le pilote de la série. Et ce film, ce sera le premier d'une longue suite de films, il y en aura 5 autres, avec l'équipage de la série originale. Mais justement, nous sommes en 1991. Terre Inconnue est le sixième et dernier film avec les personnages et acteurs d'origine. La saga cinématographique a été assez chaotique, passant du meilleur au pire. Bon, le pire, c'était peut-être l'ultime frontière réalisée par Bill Shatner, qui est particulièrement atterrant, et La colère de Khan est juste absolument brillant. Les acteurs reviendront au cinéma pour un passage de flambeau dans un autre long métrage, Generation, mais là, on va pas s'arrêter au moment de sa sortie, hein, faites-moi confiance. Allez, maintenant, je vais vous faire faire quelques petits bonds rapides dans le temps pour suivre chacun des acteurs. William Shatner deviendra T.G. Hooker en 1982 et ensuite vedette de plein d'autres séries. Leonard Nimoy sera Paris dans Mission Impossible juste après Star Trek, puis deviendra un réalisateur à succès avec des films Star Trek, mais aussi avec la version américaine de Trois hommes et un couffin, Trois hommes et un bébé. Il est décédé en février 2015 à l'âge de 83 ans. Nous nous arrêtons maintenant le 24 octobre 1991. Gene Roddenberry, que vous avez donc suivi à travers les époques, meurt aujourd'hui. Sa veuve, Majel Barrett Roddenberry, utilisera les projets de séries non aboutis qu'il avait rédigés pour lancer des séries portant son nom, comme Earth Final Conflict et Andromeda avec Kevin Sorbo. Gene Roddenberry a un cratère de Mars qui porte son nom. En 1976, le premier prototype de la navette spatiale américaine avait été baptisé Enterprise. En 1987, quelques grammes de ses cendres sont expédiés dans l'espace jusqu'en 2002, où le vaisseau d'ailleurs se désintégra dans l'atmosphère. Quoi qu'on en dise, l'impact de sa création sur la culture populaire et dans l'esprit des gens aura été considérable. Écoutez ce que George Takei, l'interprète du rôle de Sulu, me disait il y a quelques années. Star Trek, c'est vraiment Gene Roddenberry. C'est son génie, sa vision d'une humanité future, sa philosophie. C'est ses idéaux aussi et sa force. Parce que ça a demandé beaucoup de détermination pour faire à la télévision une série comme celle-ci, en 1966. Parce que la plupart des séries télé de l'époque étaient mauvaises. C'était un vrai désert. Et Gene Roddenberry s'est dit qu'avec ce médium qu'est la télévision, on avait un moyen puissant de partager non seulement de la distraction, mais aussi de partager des idées et une philosophie et une sensation de confiance en nous. Allez, on va encore tenter un saut dans le futur, mais les fluctuations quantiques à l'intérieur du trou de ver rendent difficile le suivi de la position de la combinaison avec les scruteurs standards, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on est en 2021. Le nouveau film de Star Trek fait l'ouverture du festival de Cannes. Et pour cause, c'est Quentin Tarantino qui en est le réalisateur. Le scénario est écrit par Mark L. Smith, le scénariste du film de Leonardo DiCaprio, The Revenant. Tarantino a déjà fait de la télévision, hein, un épisode d'urgence, un autre des experts, mais il y a une grosse attente sur son Star Trek qui sera forcément très très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'alors. Ah là là, non, les fluctuations quantiques sont trop fortes. Moi, je dois vous transférer à une autre époque. Désolé, vous ne pourrez pas voir le film. Vous êtes au lendemain de Noël 1982, le dimanche 26 décembre, très exactement. Et à 13h20, vous êtes en train de regarder TF1. Et à la place de Starsky et Hutch, la speakerine, Fabienne Egal, nous annonce cela.
Et maintenant, Star Trek, le plus jeune ancêtre de Galactica ou de la guerre des étoiles. Star Trek, c'est un opéra de l'espace.
C'est donc plus de 15 ans après sa création aux États-Unis que Star Trek est enfin diffusé à la télévision française, même si des spectateurs frontaliers au Luxembourg et à Monte-Carlo ont pu en profiter avant. Et si Fabienne Egal rapproche la série de Galactica et de la guerre des étoiles, c'est qu'entre-temps, la technologie a fait d'énormes progrès, que les effets spéciaux se sont multipliés et que la série des années 60 ne fait plus tellement le poids face à un public habitué à voir des guerres des étoiles, aliens et autres spectacles très sophistiqués. Star Trek est donc un rendez-vous manqué en France, malgré plusieurs rediffusions. Et il faut attendre des décennies pour que des films plus modernes finissent par convaincre les spectateurs que la série ne se contente pas de montrer des gens en pyjama dans des décors un peu factices. Voilà, maintenant je vous ramène très rapidement à notre époque, parce que sans point de destination, pas d'ouverture de la singularité quantique. Vous pouvez sortir de votre exosquelette. Live long and prosper. La semaine prochaine, vous enquêterez avec moi, sans bouger de votre chaise, sans bouger de votre machine à écrire. Vous serez Jessica Fletcher, je vous ferai pénétrer dans les coulisses de Murder, She Wrote, Arabesque. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.